le religieux chassé de la communauté. Nanda, riche marchand de la ville d'Avanti, avait épousé une femme d'un rang égal au sien. Mais cette union, qui satisfaisait aux exigences du cœur et de la fortune, n'avait pas été bénie par les dieux. Au grand désespoir de son époux, Prajapati était resté stérile et les commères de la ville la montraient au doigt. À force de prier Siva, Indra et même les divinités secondaires des jardins et des carrefours, l'honnête marchand obtint un héritier. Sa femme mit au monde un fils qui avait déjà en naissant de longs bras, un front large, des sourcils épais et un nez légèrement aquilin. 10 jours seulement après sa naissance, on lui choisit un nom selon les prescriptions de Manu. Ce petit être si bienvenu fut appelé Sunanda, c'est-à-dire grande joie. Jamais enfant ne fut plus choyé ni plus gâté. On l'entoura des soins les plus attentifs et il grandit promptement comme un lotus au milieu d'un étang. On lui enseigna de bonne heure tout ce que devait savoir l'héritier d'une grande fortune. Il apprit l'art de connaître les éléphants, les chevaux, les pierres précieuses, les hommes et, ce qui est plus difficile encore, les femmes. Sur ce dernier point, pour mieux lui démontrer la théorie, on l'initia à la pratique et son père, qui n'y regardait pas, lui donna 3 femmes légitimes. Sunanda passait son temps à folâtrer au milieu de ce sérail, derrière les œils de bœuf treillissés d'or, ou à écouter, sur la terrasse du palais, les musiciennes qui chantaient en s'accompagnant du théorbe. Doué d'une imagination vive, le fils de Nanda s'ennuya bien vite de cette vie énervante. Il devenait indifférent au charme de ses 3 épouses, la sève de la jeunesse, le besoin d'activité, le démon des voyages, le tourmentaient à son insu. « Mon père, dit-il un jour au marchand, pourquoi êtes-vous sans cesse occupé à compter, à amasser et à bâtir ?»« Mon fils, tu ne penses qu'à tes plaisirs. » Je ne t'en fais pas de reproche, au contraire, mais puisque tu n'acquiers pas de richesse, il faut bien, moi, que je songe aux affaires de la maison. » Sunanda devint rêveur et, après un silence, « Quoi, mon père, dois-je souffrir que votre vieillesse soit ainsi accablée quand ma jeunesse se consume dans l'oisiveté? Je ne puis rester plus longtemps inutile. Permettez-moi d'aller dans d'autres pays, gagner de l'argent à mon tour. » « Ingrat, est-il besoin de nous affliger d'une séparation si cruelle? Regarde autour de toi, ouvre ces coffres remplis jusqu'au bord, il y a là des trésors inouïs, de l'or, de l'argent, des pierreries, des métaux de toutes sortes. On se croirait chez le dieu de l'opulence, et le Raja d'Unjen n'est pas plus riche que nous. Crois-moi, jouis sans remords de tous ces biens, fais de bonnes œuvres si tu veux, mais ne me parle plus de voyage. » « Mon père, répliqua le jeune homme d'un ton respectueux mais ferme, si vous avez montré tout cela à votre humble fils, qu'est-ce qu'il montrera, lui, à ses enfants ?» La réflexion était judicieuse. Le marchand trouva que c'était bien dit et ne répondit rien. « C'est vrai, pensa-t-il, après ma mort, le jeune homme sera chargé des affaires de la maison. » Ne vaut-il pas mieux, tandis que je suis encore vivant, qu'il aille à l'étranger faire connaissance avec les amis de son père ? Et, plein de cette idée, Nanda se rendit dans l'appartement intérieur où Prajapati était occupé à broder une tunique pour son bien-aimé Sunanda. « Cher ami, dit-il, imposez silence à vos inquiétudes maternelles. Notre fils va voyager pendant quelques années. Les jeunes gens ont besoin de faire l'apprentissage de la vie. » Sunanda reviendra plus fort, plus instruit et plus digne de votre tendresse. » Courbée, comme toutes les Indiennes, sous le joug conjugal, la mère se tut devant cette volonté si nettement exprimée. On s'occupa sur le champ de faire un choix des plus belles marchandises. Les diamants de Golconde, les perles de Coromandel, les soies de Singapour, les mousselines de Kosala furent entassées dans des chariots. Nanda fit publier à son de cloche dans toute la ville que les marchands qui désiraient voyager sans frais et sans payer aucun droit de passage n'auraient qu'à se joindre à Sunanda. 500 marchands répondirent à cet appel. Le père prudent voulait ainsi assurer une tutelle à son fils. Après le banquet des adieux, au moment du départ, il donna ses dernières instructions aux compagnons du voyageur. « Messieurs, dit-il, en pays étrangers, il y a plus d'un écueil à éviter pour la jeunesse. Les liqueurs spiritueuses, le luxe des habits et les courtisanes. Jurez-moi que vous défendrez Sunanda comme votre propre fils contre les séductions qui pourraient l'atteindre. S'il vous écoute et se conduit bien, tout ira pour le mieux. Mais si, malgré vos représentations, il s'entêtait à faire des sottises, je vous y autorise, vendez les marchandises de Sunanda, réalisez-en le prix et abandonnez mon fils au sort qu'il aura mérité. » Devant le portique du palais, les ânes, les buffles, les chameaux et les éléphants frappaient du pied, impatients de partir. Une dernière bénédiction du père, un baiser attendri de la mère, et la caravane s'ébranle, laissant sur sa route un nuage de poussière. Ce fils chéri, qui n'a jamais quitté le foyer paternel, le voilà lancé à travers le monde, courant les aventures. Saura-t-il se diriger et mettre à profit les enseignements qu'on lui a prodigués? La courtisane a de tout temps fleuri dans l'Inde, tandis que les autres femmes, esclaves ignorantes ou timides, osaient à peine relever la tête. Elle avait le monopole de l'instruction et des talents et imposait le joug au lieu de le subir. Il y avait alors dans la ville de Sravasti une créature célèbre par ses grâces et sa beauté. Personne ne connaissait mieux qu'elle les diverses manières d'émouvoir les hommes. À l'exemple des apsaras, ces courtisanes du ciel, dont les légendes ont célébré les séductions, elle excellait dans les raffinements de son art. Poète et musicienne accomplie, danseuse lascive, comédienne hors ligne, sachant prendre toutes les voix et tous les visages, tour à tour chaste ou voluptueuse, languissante ou enjouée, dédaigneuse ou passionnée, maltraitant les hommes pour les ravir ensuite et surtout se gardant d'avoir un cœur pour mieux dominer, telle était Mademoiselle Badrika, dont le nom peut se traduire par celui de félicité. Par une matinée brûlante du mois de Vesara, la courtisante était couchée sur des carreaux de soie au milieu de la cour de sa maison. Un vélum rose préservait du soleil sa tête mignonne, une eau jaillissante rafraîchissait l'air et retombait dans une vasque de marbre où les paons venaient coquettement mouiller leurs ailes. La belle s'éventait avec un chamara, sorte d'éventail fait avec la queue du yak, ou agaçait du bout des doigts une sarika favorite, espèce de jet qui apprend à parler, qu'elle s'amusait à faire jaser. Une suivante très familière qui revenait du marché racontait en ce moment à sa maîtresse toutes les nouvelles de la ville. « Savez-vous, madame, qu'il vient d'arriver ici un marchand jeune, beau, des mieux faits, dont les richesses sont immenses? Il a mis ses marchandises en magasin et compte séjourner dans notre ville. On ne parle pas d'autre chose. » Badrika se souleva tout émue. « Ah, mon enfant, que m'apprends-tu là? Si je ne dépouille pas cet étranger de toutes ses richesses et ne le renvoie au pays natal déplumé comme le cou d'un vautour, je ne m'appelle plus Badrika. Va trouver cet homme sans perdre un instant, de peur qu'une de mes rivales ne nous prévienne. Offre-lui du bétel, du camphre, des parfums et des fleurs. Dis-lui, noble seigneur, ma maîtresse Badrika salue vos pieds. Pourquoi, après avoir quitté votre palais, demeurez-vous dans une hôtellerie comme un homme vulgaire? Notre maison est à votre disposition, venez vous y installer. » La suivante avait l'habitude de ces sortes de commissions et s'en acquittait à merveille. Au lieu de venir au monde 500 ans avant Jésus-Christ, elle méritait de naître à notre époque. Elle revient bientôt tout essoufflée. « Il ne s'est pas fait prier pour accepter, je vous jure, et il sera ici dans une heure. » Il est jeune, confiant, vous n'aurez pas de peine à lui tourner la tête. » Toute la maison était en mouvement, du toit plat qui servait de terrasse au portique de la façade. On frottait les meubles, on étendait sur le plancher des peaux de tigre et de gazelle. Au-dessus du divan destiné aux nobles visiteurs, on élevait un dé brodé. À côté de l'herbe d'arbat qui purifie tout, on brûlait le santal et l'aloès. Dans de grands vases dorés, on plaçait des bouquets de champaka et d'azoka. Quant à la courtisane, fardée, attifée, parfumée, ployant sous le poids des bijoux, savamment habillée, ou plutôt déshabillée, elle guettait sur son balcon lorsqu'apparut enfin le palanquin du marchand. Il avait fait toilette aussi et sortait d'un bain à l'essence de rose, frais, brillant, tout enflammé à l'idée de voir cette belle personne qu'on lui avait dépeinte comme si redoutable. L'imprudent, le danger l'aiguillonnait comme la lumière des lampes attire le soir la troupe ailée des papillons. En l'apercevant, Badrika, remplie de joie, improvisa cette stance que nous traduisons fidèlement. « Charmant jeune homme, en vérité, que tu sois noble ou non, riche ou bien sans richesse, en te voyant si riche de beauté, les femmes de leur cœur ne seront plus maîtresses. » Sunanda sauta légèrement de son palanquin. Badrika s'était précipité à sa rencontre, le saluant avec les façons caressantes d'une courtisane qui veut plaire et sait que tout dépend d'une première impression. Elle l'introduisit dans le salon, le fit asseoir sur le divan et, d'une voix pleine d'humilité, « Quel est le nom de votre seigneurie ?»«
Je m'appelle Sunanda. » »«
Vraiment ? En ce cas, votre nom et votre personne se ressemblent. Si votre père et votre mère ne vous avaient appelé Sunanda, c'est moi qui vous prierai de recevoir ce nom aujourd'hui. » Le jeune homme était trop bien élevé pour ne pas riposter par un compliment semblable auquel se prêtait d'ailleurs le nom de la demoiselle. Mais il semblait un peu embarrassé, tandis que Badrika, sans perdre de temps, lui prodiguait les amabilités les plus vives. « Pardonnez-moi une question indiscrète, » murmura-t-il timidement. « Quel est le prix de chaque jour passé ici ?»«
Fi donc, monsieur !» s'écria la demoiselle avec une feinte indignation.
« Pour qui me prenez-vous ? En me faisant une pareille demande, votre seigneurie n'agit pas en homme distingué. Je vous aime, ne vous inquiétez pas d'autre chose. » Sunanda se tut, honteux de l'inconvenance qu'il avait commise vis-à-vis d'une personne si désintéressée. Mais une heure plus tard, comme il traversait le vestibule, on le tira doucement par sa tunique. « Seigneur, dit la suivante, c'est 500 karchapanas par jour, 25 francs, qu'il nous faut ici. » Sunanda se tourna vers un serviteur. « Tu apporteras ici chaque jour 500 karchapanas. » L'hospitalité de Mademoiselle Badrika était plus chère que la meilleure hôtellerie de Sravasti. N'importe, ce n'est pas à 20 ans, quand on est riche et amoureux, qu'on s'inquiète de l'argent. Les jours s'écoulèrent vite, au milieu de plaisirs habilement ménagés. Sunanda était pris comme une gazelle dans un filet. Jamais Mademoiselle Badrika ne s'était donné tant de peine pour captiver un cœur. Quand elle nouait ses deux bras souples comme des lianes autour du cou de son amant, ou qu'elle l'attirait sur son sein qu'on eût dit moulé dans une coupe d'or, Sunanda, affolé, oubliait tout. Les trois épouses qui attendaient, le père qui travaillait et la mère qui pleurait. Cependant, les marchands finirent par s'étonner de ne plus voir leurs compagnons. Ils apprirent que, depuis son arrivée à Sravasti, Sunanda habitait la maison d'une courtisane. « Messieurs, dit le plus âgé de la compagnie, il faut être indulgent pour les entraînements de la jeunesse. Abandonner notre chef serait une mauvaise action. Envoyons-lui un messager pour l'instruire de notre prochain départ et le prier de revenir avec nous. » La proposition fut acceptée d'un commun accord. Le messager trouva Sunanda couché sur un lit de fleurs, tandis que Badrika, s'accompagnant du théorbe, dansait un pas à mettre en fuite la vertu des ascètes les plus endurcis. Le jeune marchand, il faut lui rendre cette justice, écouta gravement l'envoyé. Il semblait se réveiller d'un songe et le sentiment du devoir renaissait dans cette âme égarée. « C'est vrai, dit-il, je ne m'appartiens pas. Il faut partir, vous quitter, chère Badrika, mais ma pensée restera à Sravasti. »
« Quelle étrange idée vous passe par la tête, Seigneur! En ce monde, il y a deux raisons pour satisfaire ses désirs, la jeunesse et la beauté. Vous êtes jeune et vous êtes beau. Restez encore quelque temps dans le séjour de la jeunesse à jouir de ses plaisirs. C'est dans la maison du vieillard qu'il conviendra d'amasser des trésors. » Il n'en fallait pas tant pour convaincre le pauvre fou. « Hors d'ici, l'ami » s'écria-t-il en montrant la porte à celui qui venait troubler ses plaisirs. Le messager ne se le fit pas répéter deux fois. « Sunanda m'a chassé de sa présence, » fut-il dire au marchand. « Le dieu de l'amour l'a percé de 1000 flèches, vous n'en obtiendrez rien. » « Nous tenterons pourtant une dernière démarche par égard pour son père, notre ami, qui nous l'a confié. » Et les honnêtes marchands se rendirent immédiatement chez la courtisane. Ils demandèrent à parler à leur chef. Badrika sentit qu'elle était perdue si Sunanda revoyait ses compagnons. « Quoi, cher seigneur, » fit-elle avec des larmes dans la voix, « n'êtes-vous donc pas satisfait des agréments de ma maison que vous songiez encore à me quitter ?» « Ingrat, vous ne m'aimez plus !» Et sa bouche vermeille couvrit de baisers celui qui n'avait pas la force de se dérober à ses caresses. Sunanda se tourna vers un serviteur. « Ces gens-là m'excèdent, je n'ai nul besoin de les voir. Dis-leur qu'ils peuvent continuer leur voyage sans moi et que je ne sortirai d'ici que par la force. » « Soit, répliquèrent les marchands en recevant le congé qu'on leur signifiait. Nous avons fait ce qui était humainement possible pour amener Sunanda à ses devoirs. Notre conscience ne nous reproche rien. Nous vendrons les marchandises et il verra ce que vaut l'amour des courtisanes. » Le lendemain même, le serviteur, qui jusque-là avait apporté exactement 500 karchapanas tous les jours, se présenta les mains vides. Pendant quelque temps, par bienséance, Mademoiselle Badrika ne fit aucune observation, mais son humeur changeait. Elle ne jouait plus à la bayadère et devenait avare de ses caresses. À la fin, n'y pouvant tenir, elle interrogea le serviteur. « Pourquoi donc, depuis quelques jours, ne me donnes-tu pas la somme habituelle ?»« Les marchands sont partis. Où pourrais-je trouver de l'argent ?»« Aurait-il, par hasard, emporté les marchandises de Sunanda ?»« Ils ont tout emporté. » Et mon maître n'a plus à sa disposition un seul karchapana. Voilà une éventualité que je n'avais pas prévue, pensa la courtisane. Allons, il faut prendre un parti et congédier au plus vite ce niais qui croit être aimé pour sa bonne mine. Il y a 2000 ans, on raisonnait aussi bien dans les boudoirs de Sravasti qu'aujourd'hui dans ceux de Paris. Badrika vint s'asseoir auprès de Sunanda d'un air affligé, dont celui-ci lui demanda aussitôt la cause. « Ah » dit-elle avec un soupir, « il y a des choses pénibles à dire. Pourquoi, Seigneur, me forcer de vous rappeler que je suis une pauvre fille qui n'a que son métier pour vivre? Je ne possède ni champ ni ouvrier, moi. C'est avec ce que je reçois des gens comme vous que je puis mener ma maison. » « Donnez-moi des karchapanas ou laissez-moi chercher des ressources près de nôtre. » Précipité de la cime du mont Meru, Sunanda se fut relevé moins étourdi qu'en écoutant ses paroles. « Badrika, » s'écria-t-il d'une voix brisée, « il n'y a donc pas d'amis pour toi ?»« Seigneur, les courtisanes n'ont pas d'amis, leur nature est l'inconstance. Elles quittent celui qui est ruiné comme les oiseaux abandonnent l'arbre qui n'a plus de fruits. » « Ne le saviez-vous pas ?»« Quoi, Badrika, c'est donc seulement pendant qu'il a des trésors à te donner qu'un homme sait te plaire ?»« Seigneur, tant qu'Indra verse la pluie, les torrents de la montagne coulent. Tant qu'un homme a des trésors à offrir à la courtisane, elle est à lui. »« Tu veux me donner le change, tu en aimes un autre. »« Quelle plaisanterie, Seigneur, est-ce que notre cœur a de ses caprices ?» Le soir, la courtisane réjouit par ses discours et ses caresses. Le matin venu, elle vous laisse là comme de l'herbe. Cœur plus dur que les rochers de l'Himalaya, tu ne fréquentes donc les hommes que pour leur richesse? Mais oui, Seigneur, et les hommes riches qui n'usent pas de leur richesse sont traités par moi comme l'herbe fraîche et foulée aux pieds par un bœuf. Décidément, la demoiselle jetait le masque. On ne pouvait être d'une franchise plus insolente. Par un retour ordinaire, la douleur de l'amant faisait place à la rage. Le bandeau, si brusquement arraché par une main aimée, n'aveuglait plus Sunanda, la courtisane lui apparaissait dans toute sa sécheresse et sa vénalité. Sans proférer une parole, il se dirigea vers la porte. Badrika s'élança pour le retenir. « Mauvaise tête, n'a-t-on jamais plaisanté avec vous ? Ne voyez-vous pas que tout ceci n'est qu'un jeu de ma part? J'ai voulu vous éprouver et savoir si vous m'aimiez réellement. » Un cœur épris ne demande qu'à être trompé, Sunanda resta. Qui n'en aurait fait autant à sa place? Le remords n'entrait pour rien dans ce changement de manœuvre. Badrika craignait la solitude et, quoique positive, elle mêlait volontiers l'agréable à l'utile. Elle venait de s'aviser qu'elle le garderait quelque temps encore pour charmer ses loisirs jusqu'à ce qu'un autre lui apportât de l'argent. Cet autre-là ne se fit pas attendre. Un soir, la suivante introduisit sans se gêner un jeune homme de bonne façon dont la robe était couverte de pierreries. La courtisane, prenant son air le plus gracieux, fit entrer le nouveau venu dans ses appartements intérieurs. La porte se referma devant l'amant, stupéfait d'indignation et de jalousie. Se voir de ses yeux remplacés, c'est assurément de toutes les disgrâces la plus sensible pour un amoureux. Le bel Indien n'était pas homme à souffrir un partage. Les Orientaux sont encore plus susceptibles sur ce chapitre que les Occidentaux. « Puisque de pareilles choses se passent en ma présence, » s'écria Sunanda, « partons à l'instant. » Il s'enfuit à travers les rues de Sravasti, qu'il ne connaissait guère. Pendant son séjour chez la courtisane, il n'avait pas mis les pieds dehors. Il erra longtemps. Vers le matin, il se trouva à l'extrémité d'un faubourg de la ville, sur une grande route plantée d'arbres. Tous s'éveillaient avec des grâces nouvelles, le fruit vermeil du bimba se balançait sur sa tige et semblait s'offrir aux lèvres du voyageur. L'azuka entr'ouvrait ses fleurs empourprées qu'une nuit avait fait éclore, et sous les rayons du soleil levant, le champaka déployait comme un parasol ses rameaux embaumés. Personne sur la route qu'un homme qui marchait devant Sunanda, la tête nue, les yeux baissés dans l'attitude de la méditation. Il portait à la main une sébile destinée à recevoir les aumônes, un chapelet pendait à sa ceinture, son manteau rougeâtre était fixé sur l'épaule droite, tandis que sa robe de même couleur descendait jusqu'à terre. Il s'en allait pas à pas pour ne point écraser les insectes du chemin, évitant de porter le regard plus loin que la longueur d'un joug. Sunanda avait reconnu un de ces hommes qui, entraîné par une pieuse folie, abandonnait tout pour suivre la loi du Bouddha. Devant la sérénité du religieux, le jeune homme sentait se calmer le trouble de son âme tourmenté par la passion. Près de celui qui avait volontairement renoncé aux jouissances de ce monde, il eut honte de sa douleur. Une inspiration, comme il en vient parfois au désespéré, traversa son esprit et, sans parler, il suivit le saint personnage jusqu'au monastère de Jetavana. Jetavana était la résidence favorite du Bouddha. Là, au milieu de ses fidèles disciples, le maître venait se reposer des fatigues d'une vie errante consacrée à la prédication. Le religieux entra dans le vestibule. Il déposa le vase aux aumônes, épousseta son manteau, lava ses pieds et ses mains, filtra avec soin l'eau qu'il devait boire pour ne pas avaler les animalcules qu'elle pouvait contenir, et prit des feuilles de bananier pour lui servir d'assiette. Puis il se mit à manger lentement et sans avidité le riz qu'on lui avait donné. Sunanda, toujours silencieux, restait debout devant lui. « Mon ami, dit avec douceur le disciple du Bouddha, voulez-vous ce qui reste des aumônes ?» L'amoureux avait bien songé à se laisser mourir de faim, mais ces résolutions-là persistent rarement. Il accepta sans se faire prier et conta en peu de mots son histoire religieuse. « Insensé ! S'écria celui-ci. Que regrettez-vous ? Restez parmi nous, vous verrez que la pratique des vertus et le triomphe remporté sur soi-même, voilà les soins dignes d'occuper le cœur de l'homme. » Le malheureux réfléchit un instant. Il avait perdu ses richesses et ses illusions. Évidemment, après son équipée, il serait mal reçu dans la ville d'Avanti. Ne valait-il pas mieux faire une fin honorable et entrer en religion ? On instruisit le catéchumène dans toutes les règles du Pratimoksha, c'est-à-dire le livre contenant les préceptes pour arriver à la délivrance finale. Il prononça ses vœux et se montra d'une piété édifiante. Était-il guéri? Dans cette belle retraite de Jetavana, où tout invitait au recueillement, son âme blessée avait-elle enfin retrouvé la paix? Qui sait? Peut-être le démon, que ces vocations-là font toujours rire, lui envoya-t-il des songes brûlants. Dans son étroite cellule, sur sa mince couchette, il se réveilla sans doute plus d'une fois, haletant, éperdu, croyant sentir encore les caresses qu'il n'oubliait pas. Un jour, on lui ordonna d'aller faire la quête à Sravassi. Il obéit et s'en fut à la ville. L'ennemi du genre humain guidait ses pas, car il se trouva tout à coup, sans s'en douter, devant la maison de son ancienne maîtresse. La suivante, qui était sur le seuil, rentra précipitamment avertir Badrika. Depuis le départ de Sunanda, la belle avait des regrets, sinon des remords. Elle songeait souvent à ce pauvre fou qu'il avait tant aimé. Celui-là, du moins, la prenait au sérieux, ce qui touche les femmes plus que tout. Il ne la traitait pas en courtisane et lui donnait son âme avec ses baisers. Si jeune, si beau, si ardent, elle l'avait dédaigné pour quelques carchapanas. Assurément, c'était une vilaine action. Peut-être l'infortuné, égaré par la jalousie, avait-il cherché la mort dans l'étang de Sravasti. Là-dessus, les courtisanes, qui devaient savoir à quoi s'en tenir sur les hommes, se font aussi volontiers des illusions que les honnêtes femmes. « Réjouissez-vous, madame !» s'écria la suivante. « Il n'est pas mort comme vous le croyez. Je viens de le voir passer devant la porte. »« Cours donc le chercher au plus vite. »« Mais, madame, c'est que... vous ne savez pas. Depuis qu'il nous a quittés, il s'est fait religieux. » « Et qu'importe, fais-le entrer tout de même !» Sunanda parut, la tête rasée, les yeux baissés, portant humblement dans sa main le plat aux aumônes. En apercevant Badrika, il recula d'effroi. Peut-être avait-il conscience de sa propre faiblesse. Mais déjà, l'habile comédienne s'était jetée à genoux et se frappait la poitrine. « Sunanda, disait-elle, mon bien-aimé, que vous êtes cruel !» Pourquoi, après avoir abandonné votre indigne servante, être entrée en religion ? Malheureuse, oses-tu m'accuser, quand tu as brisé ma vie et reçu trop gracieusement en ma présence un autre homme, que serais-je devenue si un couvent ne m'avait ouvert ses portes ? Mon doux Seigneur, le caractère des femmes est sujet à faillir. Soyez généreux, pardonnez une faute que j'ai tant pleurée. « À partir d'aujourd'hui, ma personne et mes biens sont à vous. Revenez, je vous en supplie, jouir de l'existence auprès de moi. »« Arrière tentatrice, après m'avoir dépouillée de tout ce que je possédais, veux-tu encore me détourner de la bonne voie ?»« Seigneur, pourquoi la joie et le plaisir seraient-ils une infraction à la morale ? Aimer, c'est chanter aux dieux une hymne de reconnaissance. » Ah, le démon savait bien ce qu'il faisait. Cette voix passionnée que tant de fois, malgré lui, Sunanda avait cru entendre dans le silence de la cellule, elle vibrait à son oreille. Cette haleine qui était venue, en songe, passée comme un souffle de feu sur sa joue brûlante, elle effleurait son visage. Ce passé, que rien ne pouvait effacer, se dressait tout prêt à ressusciter. Le religieux restait fasciné comme le serpent sous le regard du charmeur. D'un mouvement brusque, la courtisane arracha le manteau et la ceinture du mendiant, elle les jeta au loin ainsi que le vase aux aumônes. Insigne de la pauvreté et de la chasteté, Sunanda ne vous ramassa pas. Il suivit Badrika et près d'elle, il oublia tous les vœux qu'il avait faits. Quelques heures plus tard, on lui rendait son manteau et on remplissait sa sébile en lui faisant promettre de revenir bientôt. Le coupable reprit la route du monastère. Une joie pure y régnait. Tous les disciples étaient en fête. Après plusieurs mois d'absence, le Bouddha venait de reparaître à Jetavana. Le religieux écouta celui dont l'éloquence triomphait des plus endurcis et il comprit l'énormité de sa faute. Le repentir entra dans son âme. Il se livra chez lui un combat. Le désir, comme un roseau vert coupé au bord de l'étang, se dessécha. Désormais, ses passions étaient domptées et l'image de Badrika ne venait plus la nuit hanter sa cellule, mais les remords le dévoraient. Il restait farouche, silencieux. En vain, ses compagnons lui demandaient « Vénérable, n'as-tu aucune maladie du corps ? Ton esprit n'est-il pas tourmenté de quelque chagrin ? » « Non, répondait-il toujours. Pour rien au monde, il n'eût voulu révéler le secret qu'il étouffait. » Un soir, pourtant, sous les vérandas du monastère, la troupe des disciples était réunie autour du maître. La lune venait de paraître, les arbres frissonnaient sous une brise légère, les poitrines se dilataient, c'était l'heure du repos, le vrai moment de songer à la délivrance finale. Étendu sur une natte, la tête appuyée sur des coussins, le Bouddha, convalescent d'une grave maladie, avait à ses côtés Jivaka, le célèbre médecin, venu depuis quelques jours à Jetavana pour soigner celui dont il était le disciple et l'ami. Comme toujours, Sunanda se tenait à l'écart sans proférer une parole. Deux religieux, qui s'intéressaient à lui, le prirent chacun sous un bras et l'amenèrent de force devant le médecin. « Seigneur Jivaka, vous qui savez tout, de grâce, examinez notre ami et donnez-lui un remède pour guérir le mal qui le mine. » Le regard profond du savant enveloppa cette face ravagée que les rayons de la lune rendaient plus pâle encore. « La science du médecin n'a que faire ici, prononça-t-il gravement. Nous sommes faits pour guérir les souffrances du corps et non celles de l'esprit. C'est à vous, vénérable, qu'il appartient de discerner ce qui trouble cette âme malade. » « Mon fils, dit à son tour le Bouddha, point de fausse honte. Si vous avez commis quelque faute, soulagez votre cœur en la confessant à haute voix devant vos frères. » Il arrive toujours un moment où le coupable n'a plus la force de garder son secret. Ce moment-là était venu pour Sunanda. Il s'agenouilla, toucha les pieds du maître avec sa tête et commença sa triste histoire. Plus d'une fois, les sons se brisèrent dans sa gorge et les mots furent devinés plutôt qu'entendus. La confession terminée, le Bouddha se leva et, d'un ton sévère, « Malheur à celui sur lequel l'enseignement de la loi n'a pas produit plus d'effet qu'une bulle d'eau. Pour cet homme de ténèbres, il n'y a point de pardon, car il n'y a pas d'amendement possible. Le religieux qui, après avoir trouvé l'appui de la religion, se laisse entraîner au mal, est déchu pour toujours et chassé de la communauté. » En écoutant cet arrêt sans appel d'un maître si indulgent d'ordinaire, les fronts s'étaient inclinés pleins de tristesse. Tout à coup, sur un signe du Bouddha, la voix fraîche d'Ananda, un disciple favori, s'éleva au milieu du silence de la nuit. Les religieux reprirent en chœur l'hymne que l'écho emportait au loin. Quant à Sunanda, il s'était enfui et perdu. Nul n'a jamais su ce que le malheureux était devenu.